Bonjour à tous ceux que j'ai pas peut-être pas salué ou pas eu le temps de saluer. Donc je m'appelle Tony, comme ça t'est dit, ça c'était une information qui était juste. Donc je suis originaire des Vosges et depuis une dizaine d'années sur Montbéliard et donc dans l'église à Étupes. Je fais aussi partie des responsables des anciens de l'église. J'étais venu il y a une fois seulement, il y a déjà 2 ans et demi, tu me faisais remarquer, donc c'était il y a longtemps. Je sais que Marcel m'a longtemps sollicité pour me dire quand est-ce que tu pourrais y retourner. Et c'est avec joie en tout cas que je suis avec vous ce matin. Comme j'aurai l'occasion de donner plus mon témoignage tout à l'heure, du coup je ne vais pas m'étendre plus sur moi, sur ma vie. Ce n'est pas le but non plus. Juste peut-être vous dire une chose, ce sera un lien avec le texte que j'ai choisi pour ce matin. C'est mon métier, je suis conducteur de travaux dans les travaux publics, donc je supervise des chantiers, des équipes qui font des travaux sur les routes, autour des bâtiments, etc. Et du coup, vous imaginez que ben, tout ce qui touche à la construction, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et dans la Bible, il y a plein de passages qui parlent de construction, et notamment par rapport à l'Église. Il y a des passages, ces fameux passages dans les épîtres de Paul, qui nous disent que l'Église est comme une construction spirituelle et qu'on est tous des pierres vivantes. Et on bâtit sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, et on est des pierres vivantes et on est amené à façonner une maison spirituelle qu'est l'Église. Et on voit aussi tous les avertissements qui sont liés à cette construction que nous bâtissons, qu'est l'Église. C'est qu'une Église ne peut pas être. Il ne faut pas laisser en tout cas des choses venir et diviser l'Église, que ce soit l'amertume ou d'autres choses. Et un parallèle qu'on peut faire, et là j'en viens à mon passage de ce matin, un parallèle qu'on peut faire avec l'Église, c'est tout ce qui concerne le peuple d'Israël et aussi notamment la ville de Jérusalem. On voit plein de psaumes qui comparent la ville à une construction harmonieuse et sans brèche, où les fortifications étaient en bon état et la ville était protégée. Et depuis quelques dimanches maintenant, à Étupes, on a commencé une série de messages sur le livre de Néhémie. Vous connaissez, je pense, le livre de Néhémie, qui nous relate justement la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Le peuple avait été déporté, et puis il y avait eu un premier retour pour rebâtir le temple, et puis ensuite arrive Noémie, mais vraiment plus longtemps après, 60 ans plus tard, arrive Néhémie qui a vraiment à cœur de rebâtir aussi les murailles de la ville. Alors quand on a fait le découpage avec Jean-Jacques et Mathieu et les autres prédicateurs à Étupes, ils ont été sympas, les collègues, ils m'ont laissé Néhémie 3, que j'ai dû préparer pour dimanche dernier. Je me suis dit, je vais encore le bosser parce que j'ai envie de vous l'apporter aussi. Et Néhémie 3, ça fait sûrement partie des chapitres de la Bible que vous ne lisez pas. Il y en a, hein. Il y en a des chapitres qu'on ne lit pas. Lesquels, par exemple? Dans les nombres, les listes, voilà. Et peut-être aussi souvent les généalogies, hein. On a tendance un peu à sauter le truc, on ne sait pas trop ce que ça nous apporte. Et dans Néhémie, il y a aussi un chapitre comme ça. On va pas le lire en entier, je vous rassure, mais on va lire des petits morceaux et vous allez comprendre et voir que il y a des choses très importantes pour nous aujourd'hui, pour vous, votre église. Je dirais, vous êtes une petite église en nombre comparée à nous, Étupes, mais vous avez les mêmes défis que nous à Étupes et qu'ailleurs, que quelles que soient les églises en fait dans le monde. Les défis sont les mêmes. Les défis de la construction de l'édifice de Christ, de ce corps qu'est l'église. Les défis sont les mêmes partout. Et donc, ils sont aussi les mêmes pour vous ce matin. Alors, ce chapitre 3 de Néhémie, c'est un chapitre où on a une longue liste de personnes qui se sont attachées à construire ou à reboucher les brèches d'une partie de la muraille. Alors, en général, quand on arrive là, on lit les noms, et puis les noms, en plus, c'est des noms, entre guillemets, barbares pour nous. On a déjà du mal à les lire, et puis on a envie de sauter au chapitre qui suit. Mais on va quand même en lire quelques morceaux choisis, je dirais, dans ce chapitre, et on continuera aussi un peu avec le chapitre 4. Donc ce matin, moi je vous appelle vraiment, c'est mon souhait pour vous, à être des rebâtisseurs, ou à être pour reprendre un peu le terme qui est dans Néhémie, à être de ceux qui bouchent les brèches. qui bouchent les trous dans la muraille, qui font partie de ceux qui, voilà, aident à réparer, à reconstruire, à vraiment construire cet édifice qu'est l'Église. Alors, si vous avez le temps de chercher Néhémie 3, je vais lire quelques versets, je vais vous lire à chaque fois où est-ce que je reprends, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Donc je commence au verset 1. Éliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananel. À côté de lui, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Je passe au verset 5. À côté d'eux, travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Yoyada, fils de Paséa, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Je passe au verset 8. À côté d'eux travaille Uziel, fils de Araya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Je passe au verset 12. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalum, fils d'Aolek, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Je saute ensuite au verset 16. Derrière lui, Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Betsour, travailla aux réparations jusqu'à vis-à-vis des tombeaux de David, jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la maison des héros. Je passe au verset 20. Derrière lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliakib, le souverain sacrificateur. Et puis je saute quelques versets et je reprends au verset 27. Derrière eux, les Tekoïtes réparèrent un autre secteur vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de l'Ophel. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Et je reprends au verset 30. Derrière eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Salaf, réparèrent un autre secteur de la muraille. Derrière eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Derrière lui, Malkia, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des commerçants, vis-à-vis de la porte de Mifkal, et jusqu'à la chambre haute de l'angle. Les orfèvres et les commerçants travaillèrent entre la chambre haute de l'angle et la porte des brebis. Désolé, hein, j'ai accroché quelques prénoms là. Pas simple, même quand on l'a lu plusieurs fois, c'est pas simple. C'est des prénoms qu'on a pas l'habitude d'entendre. Alors, en lisant ces quelques versets pour l'instant, on se dit, oh, ok, ils construisent, ils réparent, ils travaillent, ok, qu'est-ce que ça va nous apporter tout ça pour nous ce matin? C'est vrai, c'est un peu comme ça, surprenant. Alors, moi je vous avoue, la semaine dernière, quand j'ai dû préparer un message sur ce chapitre-là, alors moi qui suis passionné de construction, j'ai commencé par prendre un plan que j'ai retrouvé de la muraille de l'époque de Jérusalem. Il faut que je comprenne où est-ce qu'ils ont construit, comment, pourquoi, etc. Donc je me suis amusé à regarder chaque secteur, donc un tel et a fait tel morceau, puis après telle porte, tel autre morceau. Et en fait, Néhémie nous raconte comment ils étaient dispersés, ben, les uns après les autres, sur toute la muraille en partant du nord, en allant vers l'ouest, en descendant et en remontant. Voilà. Donc je me suis amusé à... J'ai pris du temps, des feuilles pour... voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qui en est ressorti pour moi de cette étude de plan avec ce chapitre-là? Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a une grande mobilisation dans cette construction. Alors, on n'a pas lu les chapitres d'avant, mais c'est quelque chose en fait qui est très frappant. Parce que le peuple était complètement découragé. Ça faisait une soixantaine d'années pour certains qu'ils étaient revenus. Mais finalement, les choses n'allaient pas forcément beaucoup mieux. Et il y a Néhémie qui a longtemps prié, c'est ce qu'on voit dans Néhémie 1, qui a longtemps prié que Dieu lui donne une opportunité pour pouvoir faire quelque chose. Et il avait vraiment à cœur d'aller reconstruire cette muraille. Et puis, dans Néhémie 2, on voit que Dieu suscite une occasion où, face au roi, il a l'occasion d'aller demander le droit de partir à Jérusalem pour reconstruire. En fait, si vous vous rappelez, ou je vous rappelle, Néhémie 2, en fait, Néhémie était distribuait le vin pour le roi. Et il était apparemment toujours souriant. Et un jour, il ne souriait pas. Et le roi lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Tu ne souris pas. Tu es triste. Ça devait être rare pour que le roi le remarque et le souligne. Et il lui dit, mais si tu es triste comme ça, c'est que tu as un problème de cœur. Alors, Néhémie en profite pour dire, mais oui, je suis triste parce que mon peuple à Jérusalem est dans l'abandon le plus complet, dans cette ville en ruine. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller rebâtir. Et il a même eu le culot de demander des passe-droits pour aller voir un tel et un tel, pour avoir le bois, d'avoir une garde qui l'escorte, etc. Et il a demandé un congé sans solde pour 12 années. C'est culotté quand même. Mais ce qu'il dit clairement, c'est que c'est Dieu qui a créé cette occasion-là. Et le chapitre 2 s'est terminé avec le peuple qui dit, allez, on se lève et on bâtit, on construit. Et puis on entame ce chapitre. Mais en fait, ce qui se passe là, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle qui se passe là. Dieu a donné à l'ensemble du peuple une nouvelle disposition de cœur. Au travers de ce que Néhémie pardon, a pu dire et faire, mais ils ont cette nouvelle disposition de cœur. Ils étaient abattus, découragés au milieu des ruines, des portes brûlées, mais voilà, ils ont cette nouvelle disposition et ils commencent à reconstruire. Et on voit tout de suite, dès le premier verset, que cette construction, ce n'est pas juste du matériel, parce que tout de suite, les sacrificateurs consacrent la première partie de muraille et la première porte qu'ils ont faite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de juste la maçonnerie, c'est vraiment une construction avec un objectif qui est spirituel. Alors quand j'étudiais un peu ce chapitre, j'ai remarqué qu'il y avait en tout 38 personnes différentes qui étaient citées. Néhémie n'est pas cité, pourtant un peu plus loin on verra qu'il dit lui-même qu'il a participé lui-même personnellement à la construction, mais il ne se nomme pas dans le chapitre, il a dû aider à gauche à droite. Mais il y a 38, on va dire, chefs de chantier qui étaient là sur le chantier et qui se sont occupés chacun d'un morceau de la construction. Ce qui m'a frappé aussi, ce qui doit nous frapper quand on creuse un peu ce texte, c'est qu'il y a dans ce chapitre des personnes qui sont d'illustres inconnus. Moi, j'en ai retenu un, tout au début, là. Zaccour, fils d'Imri. Ce mec, plus jamais dans la Bible, il ne sera cité. On ne sait rien de lui. Juste qu'il a fait un bout de la muraille. Mais on ne sait rien d'autre de lui. Et il y en a d'autres comme ça dans le chapitre. Des gars qui ne sont cités que dans ce chapitre-là, de toute la Bible. Mais ça nous sert à quoi en fait, concrètement, ça nous sert à quoi de savoir qu'il y a ce gars, fils d'Imri, qui a construit, qui a participé à la construction de la muraille? Ce que ça montre, c'est le cœur de Dieu. C'est que Dieu, il n'oublie personne. Tous ceux qui ont participé à l'œuvre de Dieu, Dieu ne les oublie pas. Même si l'histoire pourrait les oublier, même si les autres pourraient les oublier, Dieu se souvient de chacun. Et Dieu a fait en sorte que ce Zaccour, que ce Baruch, que d'autres soient cités là. Et nulle part ailleurs. Mais Dieu avait à cœur ces personnes et Dieu n'oublie personne. Je pense que c'est vraiment peut-être la première leçon de ce chapitre, de se dire que voilà, c'est peut-être pas intéressant au premier abord à lire, mais de remarquer que s'il y a des gens qui sont nommés là et nulle part ailleurs, c'est parce que Dieu ne les oublie pas. Alors j'aurais même envie de dire, voilà, vive Zaccour, vive Baruch. Parce que Dieu ne les oublie pas. Mais on peut le dire aussi pour nous, et je ne le dis pas pour vous galvauder, mais vive Abdel, vive, je ne connais pas tous vos prénoms, mais parce que Dieu ne vous oublie pas. Si vous vous mettez à l'œuvre pour Dieu, quoi que vous faites d'aussi petit, d'aussi discret, etc., Dieu ne vous oublie pas. Ce qui est très fort avec Dieu, c'est que Dieu oublie notre péché, parce que Christ a tout accompli. Et il oublie notre péché. Souvent, on a cette culpabilité qui revient, mais qu'on doit abandonner, qu'on doit laisser à Christ, parce que Dieu a oublié, a effacé notre péché à la croix. Mais Dieu ne nous oublie pas, nous, quand on s'engage pour lui. Et ça, c'est quelque chose de puissant aussi comme promesse pour nous. La deuxième chose qu'on peut remarquer dans ce chapitre, c'est que les premiers à s'y mettre, ce sont les responsables. C'est le souverain sacrificateur. Moi, je suis sûr que cet Eliashib, il n'avait jamais posé une pierre de sa vie. Ben, il était souverain sacrificateur, mais il est devenu maçon. Il a montré l'exemple. D'ailleurs, je me suis dit en rigolant, en étudiant un peu comment c'était décrit, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on voit que c'était des souverains sacrificateurs, parce qu'ils ont monté les portes et ils ont oublié les battants, les verrous, etc. Mais pour tous les autres, c'est dit qu'ils ont rajouté les verrous et les. Oui, ben, c'était des souverains sacrificateurs. Mais ils ont montré l'exemple. Ils sont devenus maçons pour un temps et ils ont montré l'exemple. Ce qui est frappant dans ce chapitre, et quand on le lit, c'est que plein de fois, même les quelques versets qu'on a lus, on l'a bien vu à chaque fois, c'est qu'il y a une grande collaboration. Tout le monde s'est mobilisé, et puis tout le monde a collaboré. Une trentaine de fois, on dit, on voit, on lit, et à côté d'eux, ou après, ou derrière lui, tout le monde n'était pas juste dans son coin à faire son petit truc, mais chacun travaillait avec l'autre, à côté de l'autre, derrière l'autre. C'est vrai que dans une famille physique, si je prends ma famille, j'ai trois frères et sœurs, je n'ai pas choisi mes frères et sœurs. On aimerait des fois les choisir. Mais je ne les ai pas choisis et on doit s'entendre avec. Et dans l'Église, c'est pareil. On ne choisit pas nos frères et sœurs en Christ. Et on doit travailler avec. On doit entrer dans l'œuvre de Christ avec et à côté d'eux. Et des fois, on se dit, oh punaise, j'aimerais bien plutôt être à côté de l'autre. Mais non, c'est le frère ou la sœur que Dieu a mis à côté de toi. Donc c'est avec lui, c'est avec elle que tu dois travailler. Néhémie a mis ensemble des personnes différentes, mais qui travaillaient à côté les uns des autres, derrière les uns les autres. Je me souviens, dimanche dernier, on avait Eliane, c'est une missionnaire qui est en retraite maintenant, mais qui continue à être sur le champ missionnaire de notre église à Étupe et qui est au Niger. Et maintenant qu'elle est en retraite, elle reste là-bas quand même, elle revient de temps en temps durant l'été. Mais quand elle est là-bas, elle a surtout une tâche qui est de concilier, de faire la conciliation entre les missionnaires qui sont là-bas. Et dans ce qu'elle nous racontait dimanche dernier, ben, ce qui était triste quelque part, c'est de voir que le plus grand obstacle à la mission, c'est les missionnaires eux-mêmes, bien souvent, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Et qu'il y a besoin de personnes qui travaillent à l'harmonie de l'ensemble des missionnaires. Alors, c'est triste, en même temps, c'est pas une découverte, parce qu'on sait que même quand on est zélé pour le Seigneur, on a souvent besoin que sa grâce continue à nous travailler, à arrondir un peu les angles, les arêtes vives qui ont été façonnées avant par le péché, et qui ont besoin d'être taillées, d'être arrondies, pour que justement on puisse bien travailler ensemble. Et on est appelé à ça dans l'Église, à ce que la grâce de Christ nous transforme, arrondisse nos caractères. J'aime bien prendre cette image des cailloux. Quand on prend des galets, qu'est-ce qui a fait que les galets sont bien ronds? C'est pas parce que j'en ai pris deux et que j'ai tapé l'un sur l'autre. Hein. C'est parce que les deux sont dans l'eau et qu'ils laissent l'eau, j'allais dire l'eau de la parole, passer sur eux. Et c'est ce qui fait qu'ils sont arrondis. Et si on veut deux cailloux, qui sont pas avec des arêtes vives, mais avec des belles bien arrondies, il faut les laisser longtemps, 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 longtemps dans l'eau. Et ça sert à rien de les cogner les uns sur les autres. Alors, dans l'Église, quand on se cogne les uns sur les autres, on ne fait que créer des nouvelles arêtes vives. Il faut plutôt, côte à côte, être dans la parole de Dieu pour que vraiment la parole arrondisse nos facettes et nos cœurs. Ce qui est frappant avec cette muraille, c'est que cette mobilisation, cette collaboration a été assez extraordinaire parce que on voit un peu plus loin, c'est dans Néhémie 6, que cette muraille, qui était quand même assez longue, hein, plusieurs kilomètres, toutes les brèches, toutes les portes, etc., ont été finies en 52 jours. Ils n'avaient pas les grues d'aujourd'hui. Hein. Ils n'avaient pas les bétonnières d'aujourd'hui non plus. Hein. Tout à la main, les gars. 52 jours, et c'était tellement impressionnant que c'est dit, c'est au chapitre 6, au verset 16. Verset 15. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Eloul en 52 jours, lorsque tous nos ennemis l'apprirent. Tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte, ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. Ça, c'est une des conséquences de quand on se met à collaborer ensemble. Ce que vous faites dans l'Église, ce que l'on fait nous à Étude, quand on le fait pour le Seigneur, quand c'est le Seigneur qui œuvre au travers de nous, ce qu'on fait peut être extraordinaire. On n'en tire pas une gloire pour nous, mais là, on voit là que tous les païens, tous les gens autour, eux-mêmes se sont dit, mais ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, quoi. Est-ce que votre entourage, est-ce que les gens du quartier, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont marqués, impressionnés par ce que vous faites ensemble? Est-ce qu'ils se disent, mais en fait, c'est des gens comme nous, mais ce qu'ils font, c'est extraordinaire parce qu'il y a Dieu qui est en train d'agir. C'est à cela qu'on est appelé. On n'est pas appelé à être des gens extraordinaires, on n'est que des gens ordinaires. Mais ce qu'on veut faire ensemble, est-ce que le Seigneur fera au travers de vous, ça va être extraordinaire et ça sera un vrai message pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui vous entourent. Une autre chose que j'aime bien dans ce chapitre, c'est que ils avaient pour certains du zèle. Ils ont fait un travail de ouf, comme on dit, comme disent les jeunes. Ils avaient un zèle sans réserve. Il y en a certains, c'est pour ça que j'ai choisi quelques versets, il y en a certains qui ont fait double tâche. Je ne sais pas si vous l'avez repéré quand j'ai lu. Il y en a un qui est cité tout au début. Où est-ce qu'il est maintenant? Je ne le retrouve plus. Non, je ne l'ai peut-être pas lu tout à l'heure. C'était Meshoulam qui travaillait avec les souverains sacrificateurs. Il est cité au verset 4. Et puis, un peu plus loin, tout à la fin, au verset... Est-ce que je le retrouve maintenant? Meshoulam, au verset 30. Il est de nouveau cité. C'est bien le même fils de Berekia. Hein, c'est bien le même personnage. Et il travaillait à nouveau devant sa chambre. Ah, je me suis dit, ça doit être un célibataire. Il avait du temps. Il a aidé d'un côté, il avait fini. Et tous les autres s'est dit qu'ils travaillaient devant leur maison, parce qu'ils étaient sûrement en famille avec leur fils, leur fille, etc. Mais lui s'est dit qu'il travaillait devant sa chambre. Le gars, il devait être tout seul. Et puis, il a aidé d'à côté. Il avait envie, il a travaillé, il a fait aussi, il a bouché les brèches aussi devant juste sa chambre. Et on voit ça avec plusieurs, les Tekoïtes, ce peuple, qui est venu aider au début et puis qui était là encore un peu plus loin. Et puis, on voit qu'il y a plein d'associations, des gens qui étaient... seuls ou avec leur famille, avec leur clan, et puis d'autres qui se sont associés à plusieurs, avec d'autres peuples, et il y en a qui ont fait une porte plus 1000 coulées, c'est-à-dire plus 500 mètres de muraille qu'ils ont rebouché. Voilà, mais toute cette collaboration, toute l'énergie qui a été mise, chacun avec ses moyens, chacun avec le zèle qu'il avait, certains en avaient ben, visiblement plus que d'autres, ils ont fait double travail, ils n'ont pas eu plus de mérite. Mais, voilà, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils avaient. Certains ont fait juste devant chez eux. Il y en a dans l'église chez nous à Étupe, on a plusieurs couples qui n'ont que des filles. Donc dimanche dernier, j'ai attrapé les papas au vol et dit, ben voilà, même vous, avec vos filles, regardez, il y en a un, là, il a toutes ses filles, il n'a pas de garçon. Mais il y est aussi. Il y est aussi. Tout le monde peut participer à la construction de l'église, quels que soient ses moyens. Il y a par contre quand même dans ce chapitre un bémol. Est-ce que vous l'avez entendu tout à l'heure quand je l'ai lu? Il y a certains qui ont refusé de travailler. C'était les notables. C'est au verset... Est-ce que je retrouve maintenant? Au verset 5. Hein. Il y avait les Tekoïtes, ce peuple qui a travaillé double. Mais leurs notables, les principaux, ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Il y en a qui se sont exclus de ce travail. On le comprend un peu plus tard quand on lit l'ensemble de Néhémie. Dans Néhémie 5, c'est dit qu'en fait, ces gens-là, c'était ceux qui notamment récoltaient l'argent pour le roi, pour le roi, pour ceux qui les occupaient. Et ils en profitaient aussi au passage pour prendre l'argent pour eux. Et même, c'est dit qu'ils faisaient des crédits avec des intérêts qu'ils en profitaient pour faire en sorte que les gens de leur peuple vendent leurs fils, leurs filles. Donc en fait, leur cœur était attaché à l'argent. Et c'est sûrement pour ça qu'ils ont refusé de construire, parce qu'ils se sont dit, mais attends, si la situation change, notre situation va changer. Et là, ils refusent de se mettre à l'ouvrage. Ils n'ont pas accepté les ordres de Néhémie et n'ont pas participé à la construction. Ça nous rappelle une vérité. C'est que quand Dieu bénit, il le fait, je crois, quelles que soient les circonstances, que ce soit dans des moments faciles comme dans des moments difficiles. On ne peut pas dire que Dieu bénit seulement quand il n'y a pas de problème. Non, il bénit aussi malgré les difficultés. Et on peut le dire notamment parce que quand on lit la Bible, on pourrait se dire, mais pourquoi il y a tellement de chapitres qui nous parlent de l'adultère de David, des doutes d'Abraham, du reniement de Pierre, de tous ces défauts et de ces manquements des uns et des autres? Parce que Dieu nous montre qu'il travaille avec des gens qui sont atteints par le péché. Même ceux à qui il confie les plus grandes responsabilités. Il n'y a pas besoin d'attendre la maturité ou un certain niveau de maturité, de plus avoir de doutes, etc., pour se mettre au travail pour Dieu. Mais par contre, et c'est la vérité qu'on voit là, c'est que quand il y a des rebelles, des gens qui ne veulent pas se mettre au travail, du coup, ils ne peuvent pas participer, avoir part aux bénédictions de Dieu. Ils se mettent à l'écart. Dieu ne peut pas les bénir. Ils se privent des bénédictions de Dieu. Alors c'est vrai que quand on se met des fois au travail avec d'autres frères et sœurs, on se rend compte des limites des uns et des autres, des faiblesses, des traits de caractère qu'on n'avait peut-être jamais vus. Mais tout ça est un peu mis à nu quand on se met à travailler les uns avec les autres. Mais il faut aussi accepter du coup les limites qui sont mises à nu, qui sont révélées, et compter sur Dieu qui lui fait progresser. Dernière petite chose par rapport à ce chapitre. La première moitié, à chaque fois, c'est dit qu'il travaillait à côté d'eux, à côté d'eux. Et puis tout d'un coup, ça change et c'est derrière ou après. Il y a une petite distinction qui est faite. Ça nous rappelle que quand on travaille derrière ou après quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est pas les premiers. Quelqu'un d'autre a travaillé avant nous. Quelqu'un d'autre a peut-être posé un fondement sur lequel nous on travaille. Et c'est important de se le rappeler. J'appelle ça, moi, le fait d'éviter le syndrome de Zorro. Hein, quand on arrive, quand on construit quelque chose ou quand on se met à vouloir faire quelque chose, on a l'impression qu'on est les sauveurs et puis que c'est nous qui allons tout faire. Et on se prend un peu pour Zorro. Et on développe un syndrome de Zorro. On est le sauveur. Mais c'est rare qu'on soit le premier à être intervenu. Quelqu'un nous a précédés. Quelqu'un a fait aussi un travail avant nous, a peut-être longtemps semer, témoigner, prier, on ne le sait peut-être même pas. Mais il faut se rappeler qu'on est toujours après quelqu'un et qu'on n'est pas seul dans l'œuvre. Il n'y a que Dieu qui est, lui, le maître de toutes choses, qui est pleinement à l'œuvre depuis le début jusqu'à la fin. Et il ne faut jamais se considérer comme indispensable, quoi qu'on puisse croire. La grande question pour nous, et pour vous ce matin peut-être, c'est de se dire, mais est-ce que chacun veut vivre sa petite histoire dans son coin, même si c'est avec Dieu? Ou est-ce que vous voulez ensemble vous placer dans la petite partie qui vous concerne et qui concerne la grande histoire du salut et du royaume de Dieu? On voudrait peut-être, le monde nous pousse à être tous, chacun de son côté, isolés, à faire sa petite vie dans son coin. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que ensemble on se mette à son service et qu'on prenne la part qu'il nous accorde dans son royaume et dans l'œuvre de son royaume. Et pour cela, Dieu nous donne une disposition de cœur et les moyens de le faire. Je continue avec quelques versets au chapitre 4, si vous voulez bien. Alors, je dis chapitre 4, peut-être que vous, là où je me suis arrêté tout à l'heure au verset 32, ça continue. Certaines Bibles, après le verset 32, il y a le verset 33 jusqu'au verset 38. Et dans d'autres Bibles, il y a le chapitre 4 qui commence au verset 33. Donc je lis quelques versets à partir du verset 33. Donc le peuple s'est mobilisé, a collaboré, construit, reconstruit la muraille, bouche les brèches. Et puis arrive une opposition. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? Tobia l'ammonite, qui était à côté de lui, et dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Et puis là, on a une prière de Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambalat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Sodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Je vais sauter quelques versets et je vais relire à partir de verset 8. Oui, dans ma Bible. Je regardais, je me levais et je dis aux grands, donc c'est Néhémie qui parle, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Je lis encore un peu plus loin, au verset 13. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, c'est toujours Néhémie qui parle, hein. L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Rassemblez-vous auprès de nous, à l'endroit d'où vous entendrez le son du cor. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, et c'est la fin du chapitre, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Donc voilà, ils s'étaient mis au travail, ils reconstruisaient, ils rebouchaient les brèches, reconstruisaient les portes. Mais voilà, ça n'allait pas durer de manière si paisible. Tout se passait bien, mais ça pouvait pas durer. Et ce qu'on voit là, c'est aussi un principe dans la vie chrétienne. Quand on se met à l'œuvre pour Dieu, forcément, à un moment donné, arrivent des oppositions. Et dans ce chapitre, on voit comment Néhémie gère ça. Et comment, du coup, nous, on peut aussi le gérer pour nous aujourd'hui. La première vague d'opposition, elle se fait par le mépris et la dérision. Hein, on voit Sambalat et les autres qui se moquent. Qui viennent mais qui disent, ah, votre muraille là, si on lance un runner dessus, la muraille elle tombe. Sympa. Comment Néhémie réagit face à ces critiques, face à ces mots qui sont durs? Est-ce qu'il répond? Il s'adresse à Dieu. Il n'y a aucun mot de réponse pour ces critiques, mais Néhémie s'adresse à Dieu. Et il fait cette prière qu'on a lue, qui est peut-être une prière qui nous paraît bizarre, hein. On appelle ça une prière d'imprécation. Néhémie demande à Dieu qu'il fasse justice. Demande à Dieu que leurs péchés ne soient pas pardonnés. La première chose qu'on peut retenir de cette prière, c'est que, et c'est vrai pour nous aujourd'hui, même si ça peut paraître surprenant, mais c'est qu'on peut tout dire à Dieu dans notre prière. Une dame à l'église à Étupes, on a plusieurs groupes de maison, on se retrouve en semaine, et une dame d'un des groupes de notre groupe de maison me disait semaine dernière, mais j'ai eu un moment de doute et j'ai douté. Alors elle se repentait pour ça, mais elle me dit aussi, ben j'ai pu prier, j'ai pu dire à Dieu quels étaient mes doutes. Ben, je dis, mais super, si tu as pu dire à Dieu quels étaient tes doutes, Dieu t'écoute. Il n'y a pas de doute ou de choses qui nous viennent qui nous troublent, qu'on ne puisse pas dire à Dieu. Et c'est ce que Néhémie, il ne répond pas aux critiques, mais il s'adresse à Dieu. Il demande à Dieu que justice soit faite. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que il ne fait pas lui-même justice. C'est pas Néhémie qui va aller répondre. C'est pas Néhémie qui va aller contrer ce qui est dit. Faire ce que Néhémie a fait, donc ne pas répondre soi-même et demander Dieu qu'il lui-même fasse justice, ça demande quand même, je ne sais pas si vous arrivez à le vivre, mais je sais que, en tout cas pour moi, chaque fois que je dois vivre ça me demande un grand pas de confiance en Dieu. Parce que moi, le premier, quand on me critique, j'ai envie de répondre. J'ai envie de me défendre. Mais quand je fais ça, je ne fais pas confiance à Dieu. Je suis en train de laisser un message à l'autre qui dit que moi, je me défends moi-même. Dieu, dans l'histoire, il n'a plus rien à voir. Néhémie nous montre que on a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu, même quand on est critiqué. Surtout quand on est critiqué. Parce que là, on montre que c'est Dieu qui agit. Parce qu'on remet son sort à Dieu. On montre que Dieu est souverain, qu'il est juste juge. On montre qu'on croit que Dieu est notre défenseur. On montre que Dieu voit et entend ce qui se passe. L'ennemi, son but, c'est toujours que le travail s'arrête. Et aujourd'hui, c'est pareil. Le but de l'ennemi, de Satan, c'est que le travail cesse. C'est qu'on arrête de témoigner. C'est qu'on arrête de faire des choses pour la gloire de Dieu. Quand on reçoit des critiques, on a besoin, je ne sais pas si ce sera le cas, peut-être dans les sujets de prière qui seront envoyés ou qui seront donnés, peut-être que vous avez des critiques et vous aurez envie que les autres prient pour ça, pour votre manière de réagir, pour que vous n'arriviez à ne pas réagir, à ne pas rentrer dans la colère, mais s'en remettre à Dieu pour que Dieu change la situation. La conclusion de cette première opposition, c'est directement: et le peuple prit à cœur ce travail. Ils étaient qu'à la moitié, en fait. Ils avaient fait que la moitié du boulot. Il y a cette première vague d'opposition, mais Dieu, Néhémie s'en remet à Dieu, et du coup le peuple se remet au travail. Il prend à cœur ce travail. Mais ça continue. L'opposition continue. On voit que toutes ces personnes-là qui s'attaquaient au peuple d'Israël et à Jérusalem, ils se liguent. Ils se liguent ensemble pour aller battre les habitants de Jérusalem. Mais, je n'ai pas lu tout le verset, mais des personnes avertissent les habitants de Jérusalem qu'ils vont être attaqués. Plusieurs fois, c'est marqué 10 fois de suite, ils ont été avertis. Et du coup, ils mettent ensemble, Néhémie met une stratégie pour pouvoir se défendre. Et il dit une chose. Il dit ça au peuple entier et aux responsables. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. On doit se souvenir, quand il y a des personnes qui se liguent contre nous, que celui qui est grand et redoutable, c'est Dieu, et qu'on peut lui faire pleinement confiance. On a peut-être parfois l'impression que Dieu est loin, est faible, mais ce n'est pas le cas. Dieu est grand et redoutable. Et on peut combattre avec cette idée. Et en plus, Néhémie dit, mais combattez pour vos proches, hein, pour vos frères, pour vos familles. On a envie de défendre notre église, de défendre notre famille. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ce que Néhémie a fait, le peuple a mis en place, la conclusion, c'est que c'est dit, Dieu anéantit leur entreprise. La gloire est redonnée à Dieu. Ils ont bien sûr mis des choses en place, fait des choses. Mais ils se rendent compte et réalisent que dans tout ce qui se passe, c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est Dieu qui est en train de travailler pour eux et de combattre pour eux. Et qui anéantit le projet des ennemis. Et grâce à ça, chacun retourne à son ouvrage, à son travail. La troisième opposition qu'on voit, ce sera la dernière que je vais citer dans ce passage, c'est ce qu'on voit un peu à la fin. Néhémie se rend compte d'une chose. Quand tout le monde est au travail, même si on travaille à plusieurs, etc., mais il se rend compte que, même si on arrive à la fin, on se rend compte qu'il peut y avoir un découragement qui s'installe. Parce que c'est usant. C'est usant le travail quand on est tout le temps à fond, ça peut être usant. Et il se rend compte que il y a besoin de résister au découragement. Le découragement, on n'a pas lu tout le chapitre, mais on voit que ça avait bien commencé un peu avant en fait. Il y a Judas qui avait dit, mais oh là là, la tâche est trop grande, on ne va pas y arriver, etc. Les ennemis vont nous attaquer. Bon, ça s'est passé. Mais plus on avance, plus on avance, plus il y a cette tendance au découragement. L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. C'est le constat que Némi fait. Rassemblez-vous auprès de nous à l'endroit d'où vous entendez le son du cor. Notre Dieu combattra pour nous. Là, on voit le rôle de Némi en tant que responsable, qui est vigilant à ce qui se passe, même si tout avance, tout le monde travaille, qui est vigilant et qui, à un moment donné, dit, attendez, il faut aussi se rassembler. Il faut aussi se rassembler pour reprendre des forces, pour prendre les armes de Dieu. Hein, c'est dit à la fin, ils avaient chacun leurs armes et de l'eau. C'était ce qu'il fallait pour avancer. Mais il y a besoin de se rassembler, de s'encourager. Alors je me suis posé la question, je ne sais pas pour vous comment c'est, ben si j'ai un petit peu deviné là tout à l'heure, mais Néhémie, dans ce passage, il instaure un système d'alerte. Il dit, à chaque fois qu'il y aura le cor qui va sonner, on se rassemble. Ça sera à chaque fois qu'il aura vu que peut-être le coup de découragement est en train de gagner un endroit ou l'autre. On se rassemble. À chaque fois qu'il y a le cor qui sonne, rassemblez-vous là où ça sonne. Alors quel est votre système d'alerte entre vous? Peut-être que c'est la réunion de prière en semaine. Peut-être que c'est d'autres choses. Chez nous, il y a notamment, comme l'église est beaucoup plus grande en nombre, ben on a des groupes de maison. Mais au-delà des groupes de maison, peut-être qu'il y a besoin que vous ayez deux, trois personnes qui vous sont plus proches, à qui vous pouvez partager plus quand il y a un découragement qui arrive, quand il y a une chose difficile. Moi, je me souviens quand j'étais plus petit, quand j'étais enfant, j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, ça dit à peu près mon âge. Mes parents avaient un tout vieux téléphone encore, vous savez, ceux qu'on tourne, qu'on tournait, voilà. Et puis, à un moment donné, quand j'ai plus une dizaine d'années, on avait changé de téléphone, on avait un téléphone tout moderne, avec, il n'y avait plus que les touches. Et puis, il y avait des numéros qu'on pouvait préenregistrer. Faut pas oublier de faire le numéro, on pouvait appuyer sur un raccourci. Il y avait 10 raccourcis sur le téléphone. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que ces 10 raccourcis, c'était qui? Alors, mes parents sont originaires du Portugal. Ils étaient très attachés à la famille. Ils le sont encore. Ils sont au Portugal en ce moment. Ils en reviennent demain. Les 10 numéros, c'était pas leurs parents, leurs frères, etc. Même s'ils étaient très, très, très proches de certains de leurs frères et sœurs. Les 10 numéros qui étaient préenregistrés, c'était l'ancien du groupe de maison, c'était les 10 autres personnes qui composaient le groupe de maison qui se réunissaient chez nous et dans les maisons de la ville. Et c'était toutes ces personnes-là qui étaient dans les numéros préenregistrés. Quand il y avait un souci, c'était ces personnes-là qu'on appelait en urgence. Et moi, ça m'a marqué parce que ça montrait vraiment le lien, les liens fraternels qu'il y avait dans le groupe de maison. C'était pas forcément avec toute l'église, mais c'était ces quelques personnes qui étaient plus proches, qui habitaient à côté, quand il y avait un souci, ben voilà, c'était ces personnes-là qu'on appelait pour demander la prière, pour se retrouver, pour prier ensemble, pour aider matériellement, etc. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Et je trouve que c'est, voilà, c'était à l'époque, ben, le système d'alerte du petit bout d'église qui se réunissait dans notre village, quoi. Et ça, on a aussi besoin de ça. Il faut se souvenir que notre foi grandit et vient quand nos yeux voient Dieu dans sa grandeur. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de partager, même si c'est que des petites choses, mais de partager ensemble ce que Dieu fait, ce qu'on voit de ce que Dieu fait dans nos vies. Même quand c'est tout petit, mais ça va nous encourager nous et ça va encourager les frères et sœurs à qui on le partage. C'est Dieu qui a promis lui-même de bâtir son église. Il a promis qu'il appelait et transformait ceux qu'il a choisis, qu'il allait édifier, purifier son Église. Donc voilà l'œuvre dans laquelle on est engagé et on sait qu'elle va réussir. Cette œuvre se réalise par la bonne nouvelle, par l'Évangile. On peut vraiment se confier en Dieu, prier pour nos ennemis, et on doit aussi se souvenir du Seigneur. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le pain et le vin. Le Seigneur Jésus a été moqué, on lui a fait violence, mais il s'en est remis à son Père Céleste. Il s'en est remis à son Père Céleste, mais il prenait sur lui, il a reçu sur lui la peine que méritaient nos fautes. Et malgré cela, il a dit, Père, pardonne-leur. Jésus avait soif de justice, mais cette justice s'est déversée sur lui. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement pour revenir sur la prière de Néhémie de tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de prière d'imprécation, comme Néhémie a fait. On n'est plus invité à maudire nos ennemis, on est invité à les bénir. Pourquoi? Parce que tout s'est réalisé, tout a été accompli en Jésus. Toute la justice a été déversée sur Jésus et non pas sur nous. Jésus-Christ a supporté tout cela. Il a été mis à mort, il est ressuscité. Il nous offre aujourd'hui un plein pardon, une vie nouvelle, éternelle. Il l'offre à tous ceux qui croient. Alors oui, nous aussi, on peut se confier en Dieu, on peut prier pour nos ennemis, on peut les bénir, on est appelé à le faire, et c'est comme ça qu'on peut poursuivre la course. En fait, au fond, pour Christ, l'opposition qu'il a rencontrée jusqu'à sa mort, en faisant cela, il accomplit le plan parfait pour notre salut. Jésus-Christ est ressuscité. Il vit éternellement et ça sera aussi le cas pour nous. Alors on peut nous moquer, on pourrait même nous tuer, mais c'est toujours le plan de Dieu qui triomphe. Et son plan, c'est que nos vies soient transformées petit à petit, pas à pas, et que ça soit pour sa gloire et pour l'éternité. En fait, la bonne nouvelle de l'évangile de Christ, elle fonctionne bien quand il y a de l'opposition. Quand on est dans l'opposition, quand il y a de l'adversité. Et c'est notre seul moyen, l'évangile, c'est notre seul moyen pour vaincre l'ennemi. Et cet évangile, comme c'est dit aussi dans les épîtres, il est le même partout. Que ce soit ici, au Creusot, que ce soit à Paris, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Montbéliard, à Étupes, c'est le même, et c'est la même bonne nouvelle, le même message pour tous. Alors là, j'aimerais juste prier pour conclure et nous inviter vraiment à persévérer, à tenir ferme. Seigneur, on a vu avec ces quelques versets de ta parole, ces deux chapitres de Néhémie, combien tu as suscité, donné un cœur vraiment qui, aux personnes qui voulaient se consacrer à toi. Et on a pu voir comment un peuple s'est levé et comment il a tenu ferme. Seigneur, que vraiment nous puissions aussi nous identifier à ce peuple. Et aux personnes de cette ville de Jérusalem de l'époque. Dire voilà, nous aussi on veut se lever. Nous aussi on veut se mettre à l'œuvre. Seigneur, que tu puisses montrer à nos frères et sœurs ici du Creusot comment, à leur niveau, avec leurs moyens et avec ce que tu vas leur donner, comment ils peuvent continuer l'œuvre qui a déjà commencé. Continuer à être des témoins fidèles de toi. Comment ils peuvent continuer à diffuser ta parole. À être de ceux qui dispensent ta parole autour d'eux. Seigneur, on sait que c'est toi qui bâtis ton Église et nous savons du coup que nous pouvons te faire pleinement confiance. Tu es ce Dieu grand et redoutable et on n'a pas à avoir honte de cela. Au contraire, on veut s'appuyer sur cela pour avancer dans nos faiblesses, malgré nos faiblesses, Seigneur. Mais toi, tu bénis, quelles que soient les circonstances, quand on choisit de vraiment se mettre à ta suite et de travailler pour toi. Amen.
Amen. Amen.